Donc, la loi de Dieu réside dans des commandements, soit positifs, soit négatifs, qui visent des comportements humains concrets. Donc, on est dans le registre quand même de l'agir. Voilà. Donc, la dernière fois, on avait fait l'agir moral, mais là, on est plus dans le... qu'est-ce que peut nous dire la loi naturelle. Voilà. Et donc, Dieu, en fait, dans sa sagesse, nous a défend ou conseille à l'homme. Donc ça, c'est ce qu'on reçoit dans, par exemple, la loi, le décalogue. Voilà. Et puis, ces préceptes divins, ils rencontrent l'effort immémorial des hommes pour ordonner leur action et donner un sens à leur vie. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est du domaine de la révélation, où Dieu qui propose une loi et qui propose des préceptes et des choses. Et puis, il y a quelque part, nous, au fond de nous, on a une idée de ce que ça devrait être, etc. Et puis, on cherche aussi le bonheur. Dans les deux cas, il y a quelque chose autour du bonheur, ce qu'on avait déjà un peu abordé, enfin, pas mal abordé la fois dernière et qu'on ne va pas forcément réaborder là. Alors, en fait, il y a plusieurs questions autour de cette histoire de loi naturelle. Donc déjà, on pourrait se dire que la morale chrétienne, elle rejoint dans les grandes lignes le sentiment général des hommes de bonne volonté. Par exemple, le décalogue, vous pouvez discuter avec plein de gens qui sont croyants, pas croyants, etc. Ça paraît être un code de bonne conduite qui est assez universel. J'ai déjà trouvé des gens qui étaient contre, hein, mais bon, c'est rare. Voilà, donc est-ce que finalement on pourrait s'en tenir là? Et du coup, qu'est-ce que ça apporte de plus que ça? D'un autre côté, on voit que la Bible et l'Église nous donnent des codes moraux qui sont attribués à Dieu. Et certains sont absurdes, voire criminels. Donc il y a des choses autour de... par exemple, les handicapés qui n'ont pas le droit de rentrer dans le temple, des choses comme ça, qui paraissent quand même pas complètement, comment on dirait à l'heure actuelle, politiquement correct, voilà. Et donc, on peut se dire aussi que ces préceptes, y a des choses, pourquoi ça s'appliquerait à tout le monde? Ça a l'air de s'appliquer juste à ceux qui sont croyants, qui veulent pratiquer, qui veulent suivre la loi de Dieu. Donc, ça n'a pas de vocation particulière plus loin que ça. Ensuite, on a une apparente contradiction entre la loi naturelle, la morale naturelle, que l'homme pourrait trouver par la raison, et puis la révélation. Donc, comment est-ce qu'on articule la raison et la révélation? Qu'est-ce qu'on en fait, cette apparente contradiction? Et puis, il y a une dernière question qui tourne plutôt autour de la malhonnêteté à discuter, à argumenter avec des non-chrétiens, comme si, en fait, on pouvait ensemble trouver par la raison la loi de Dieu, et puis finalement on est quand même en train de dire que c'est nous qui avons la vérité, et que, enfin nous, pas nous spécialement, mais Dieu a la vérité, et donc in fine, il faut quand même que tout le monde applique ce qui est dit dans la révélation. Donc il y a un truc qui n'est pas complètement cohérent entre la manière dont on parle à des non-chrétiens. Voilà. Donc, ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est en quoi la sagesse humaine, donc là, on est très dans le domaine, justement, ce côté un peu fond naturel, on va dire, en quoi elle est préparation évangélique, et donc comment elle rejoint la morale chrétienne. Ensuite, on travaillera sur tout ce qui est raison et révélation, comment on peut articuler les deux. Et puis après, on regardera comment est-ce qu'on peut être missionnaire sans être malhonnête. Voilà. C'est mon programme. Alors, la sagesse, c'est une préparation évangélique. Donc, déjà, quand on regarde l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament, il y a plein de choses sur la sagesse. On a même un livre de la sagesse, donc voilà, dans l'Ancien Testament. Et ce qu'on peut voir dans l'Ancien Testament, c'est qu'il y a... la sagesse, elle a plusieurs façons d'être présentée. Donc, il y a une première, c'est les équivoques de la sagesse. Donc, très, très tôt, il y a Israël qui a rencontré les sagesses politiques. On s'est décrit, on le voit bien dans les premiers livres de l'Ancien Testament. Voilà, on voit qu'il y a les scribes qui expliquent les choses, qui souvent sont perçus comme retors et pas toujours comme complètement très honnêtes. Le serpent qui est pensé comme intelligent et très astucieux. Donc, qu'est-ce que c'est cette sagesse ou cette astuce, on va dire? Voilà, il y a Ahitophel, le conseiller David, qui est très intelligent, mais finalement, ce qu'il propose aboutit plutôt à la catastrophe. Et puis, il y a les prophètes qui disent que finalement, on détruira la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. Donc, il y a quelque chose où la sagesse, c'est pas toujours, ça n'a pas toujours l'air d'être un bien, quoi. Voilà. Alors là, je confonds un peu des choses de nature. Il y a la sagesse, l'intelligence, voilà. Mais bon, c'est quand même dans le même registre. Après, il y a un deuxième aspect, c'est que la sagesse, elle a un certain prestige dans la Bible. Donc déjà, il y a plusieurs non-juifs qui sont loués dans la Bible, voire même qui font des choses mieux que, que certains membres du peuple de Dieu. Donc il y a le pharaon dans Genèse 12, 18, donc ça c'est celui de Joseph. Il y a le saint homme Job, on ne sait pas trop ce qu'il est, on ne dit pas qu'il est juif, donc voilà, et il a l'air d'être un saint homme tout à fait. Il y a les matelots qui ont Jonas dans leur bateau là et qui veulent quand même pas le jeter à la mer alors qu'ils savent bien que c'est sa faute s'ils sont en train de périr. Donc on voit qu'il y a quand même des personnes qui sont pas du tout juives et qui ont l'air d'être louées et de faire des choses bien. Voilà. On a aussi après le déluge ce qu'on a appelé les commandements noachiques qui sont un certain nombre de commandements qui n'ont pas l'air d'être spécialement liés à la religion juive et qui sont plutôt des préceptes qui devraient s'appliquer à tout le monde. Et c'est ce que pensent les juifs, donc une sorte de décalogue profane. Voilà, on a le livre de la sagesse qui fait une place vraiment à la réflexion des philosophes sur la vertu. Et là, c'est la beurre de la sagesse, ce sont les vertus. Elle enseigne en effet tempérance et prudence, justice et force, ce qu'il y a de plus utile pour les hommes dans la vie. Donc on est sur des choses très profanes. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce sera repris par Cicéron. Il parle aussi de tempérance, prudence, justice et force. Donc on est tout à fait dans un langage de sagesse humaine. Et puis il y a cette idée que on ne peut pas, il faut faire honneur à l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme pour l'élever au-dessus des animaux. Et donc la sagesse est vue comme un attribut divin qui est dispensé par le Dieu d'Israël aux âmes droites. Donc qui dit dans Sagesse 7, il est le guide de la sagesse et le directeur des sages. Et donc on a la sagesse personnifiée qui a présidé à la création. C'est elle qui a mis dans le monde les repères que l'homme peut identifier pour diriger sa vie. Donc il y a quand même un certain prestige de la sagesse et une place donnée à la sagesse qui est non négligeable. Voilà. Et puis il y a aussi cette idée de purification de la sagesse humaine. Donc Israël a puisé dans le trésor des sagesses païennes des connaissances et des règles de conduite qui sont utiles pour la vie en société et même la conduite individuelle. Et donc on a une sorte de complémentarité entre la sagesse humaine profane et puis les lois de Dieu. Voilà. Et il y a une sorte donc là on en parlera un peu plus loin, mais il y a déjà une sorte d'ordonnancement quelque part entre la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, et donc il y a quelque chose comme une graduation ou une complétude qui est apportée par la loi, qui est considérée comme une suprême sagesse. Alors dans le Nouveau Testament, on a quand on regarde ce que le Christ prêche, à la fois il prêche des choses qui sont un peu radicales, et là je ne suis pas très sûre que là spontanément c'est ce que nous on trouverait comme ça pas une idée qui sort de chez nous. Par exemple, qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Je ne suis pas très sûre qu'on peut trouver un équivalent dans la sagesse humaine. Ce n'est pas du tout ce qu'on va imaginer en général. Voilà. Et puis, à d'autres moments, il a des considérations de complet bon sens sur l'intérêt bien compris. Moi, ce que j'aime bien, c'est la parabole où on dit le roi qui partait en guerre, s'il a que 10 000 hommes et qu'en face, il y en a 20 000, il faut peut-être qu'il s'arrête et qu'il envoie une estafette avant parce qu'en fait, il va se faire battre, quoi. Je trouve que c'est quand même super bon sens, quoi. Donc, voilà, ça fait vraiment pas du tout très élevé. Pourtant, c'est dans la bouche du Christ. Voilà. Chez saint Paul, il y a la sagesse est perçue comme aussi paradoxale. Donc là, on retrouve les deux vues de la sagesse, où la sagesse de Dieu est passée pour ce qui paraît une folie, la croix pour mettre en échec la sagesse du monde. Donc là, il y a quelque chose entre la sagesse de Dieu qui a l'air d'être folie aux yeux des hommes et inversement. Et c'est finalement la sagesse de Dieu qui a l'air folie, la croix, qui est celle qui a le plus, qui est le plus solide. Voilà. Et puis saint Paul connaît, donc lui, il a une formation grecque et donc il a eu philosophique, etc. Donc il a il est un homme accompli de son temps. Et du coup, il connaît bien la pensée des stoïciens. Et du coup, il en parle des vertus et il en parle de comment récupérer ce fond commun pour en faire quelque chose. Donc tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine, voilà ce qui doit vous préoccuper. Quelque chose, on s'appuie sur un socle très humain. Il fait l'éloge des nombreuses vertus, l'endurance, l'humilité, la force, la piété. Donc, on retrouve toujours un peu les mêmes vertus. Et il met en valeur un certain enchaînement des vertus. Nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas. Donc il y a quelque chose comme un entraînement et une spirale positive des vertus. Voilà. Alors comment les premiers temps de l'Église et jusqu'à aujourd'hui se situaient face aux morales non bibliques ? Alors quand on regarde les pères de l'Église, en fait ils se sont pas du tout positionnés en disant il y a la morale humaine, c'est n'importe quoi, et puis voilà la morale chrétienne, ce que nous dit la Bible, etc. Non, en fait ils ont beaucoup plus tout imbriqué. Voilà, donc on a Clément d'Alexandrie et Eusèbe de Césarée qui voient dans la pensée philosophique, surtout les platoniciens et les stoïciens, mais c'est aussi parce qu'on est en milieu grec et donc c'est beaucoup ce qui est là, une préparation évangélique. Donc le discours moral joue un rôle prépondérant dans les ressemblances qu'il relève, respect des valeurs humaines, combat spirituel, etc. Et donc il reprend dans ses exhortations et ses récits des tas de choses que les stoïciens ont dit ou d'autres écrits philosophiques de son temps. Voilà, on a Aristote. Donc Aristote n'est pas un chrétien, je vous rappelle. C'est un philosophe, par contre, qui a beaucoup irrigué nos chrétiens. Et lui, on a cette dimension qu'on va retrouver après dans Ambroise, mais aussi chez saint Thomas, qui est l'homme est également ordonné à ce qui est bien. Donc il y a quelque chose autour de réussir sa vie qui correspond au bonheur. Il parle des vertus qui sont développées au départ par l'éducation, qu'il faut faire grandir par l'exercice. Donc il y a quelque chose autour d'un entraînement à bien faire. Hein. Donc c'est un exercice, c'est comme une forme de combat. Pardon. Et il parle de la prudence qui fournit l'évaluation juste pour parvenir au but. Les autres vertus régissent un domaine particulier de l'agir humain. Donc Ce que nous montre la morale d'Aristote, c'est que elle est très englobante, elle s'appuie vraiment sur une anthropologie un peu globale. Voilà. Et les vertus morales, donc il en compte 11, sont des dispositions stables. Et en même temps, il y a cette idée de se développer par la vertu et de les pratiquer, et une sorte d'entraînement et de combat. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont très consonantes et qui sont reprises après par beaucoup de pères de l'Église. Ambroise, donc lui, s'est inspiré aussi de Cicéron. Donc lui, il a fait un traité des devoirs où il formule des règles d'une morale de l'honnête homme qui est destinée, donc lui s'adresse en fait à ses clercs de son dossier, mais qui s'appuie en fait sur quelque chose de ce que Cicéron a produit dans ses textes. Et donc il leur présente à la fois des exemples bibliques, mais à la fois des modèles complètement païens. Voilà. Et donc il mixe le tout et il prend tout ce qui est bon pour faire avancer ses clercs et pour proposer une morale chrétienne, finalement. Et donc là, on voit que la loi naturelle, elle correspond à la raison qui est disponible au cœur de chaque homme, une raison droite correspondant à la nature, érigée par le Dieu commun. Alors là, c'est une phrase de Cicéron, donc le Dieu commun, bon, il mentionne ça, mais lui, pour lui, c'est plus déiste, mais voilà. Âme du monde, intelligence en action. Voilà, et c'est exactement ce que dit Cicéron. Donc on est quand même dans ce cadre-là, et donc dans cette interpénétration de la morale chrétienne et de la morale profane, et donc de la loi naturelle et de ce que nous dit la révélation. Alors pour saint Augustin, la vertu, c'est une lumière qui nous guide, éclairant les choix moraux qui se présentent. Donc lui, il est dans une logique où la vertu, c'est aussi un éclairage finalement du Christ, qui est la lumière. Et saint Thomas, il reprend l'éthique à Nicomaque, faut se concentrer pour le dire, d'Aristote, et il le transpose en régime chrétien. Et donc il parle aussi de cette anthropologie, de les valeurs, etc. Mais il parle de cet exercice, donc on est tout à fait dans la même logique qu'Aristote. Qui aboutit dans les meilleurs cas à une disposition stable. Il s'appuie sur les quatre vertus, force, prudence, tempérance, justice. Et il place particulièrement la prudence à l'honneur, puisque c'est elle qui permet de rester entre les deux extrêmes, qui sont, de rester vraiment dans une voie où finalement d'un excès d'un côté ou de l'autre n'est pas juste ou n'est pas ajusté, pas moral. Voilà. Si on a trop peur, par exemple, du coup, on va faire n'importe quoi. Et si on n'a pas du tout peur, on va faire aussi n'importe quoi. Donc, quelque part, il faut toujours un entre-deux. Voilà. Et c'est ça qui va permettre à l'être humain d'être formé. Donc là, on est complètement dans les concepts d'Aristote. Sur le fait qu'on est formé, on est informé par ses vertus et ses valeurs. Et qui nous permettent d'aller vers le bonheur ou d'être heureux. Voilà, et il y a cette idée toujours de travail sur soi-même, puisqu'il faut se connaître, il faut éprouver comment notre affectivité, les différents mouvements de nos sensibilités peuvent voilà, se connaître aussi pour voir les limites qu'on a, les limites qu'on pose de notre histoire, et donc faire l'exercice des vertus. On a un autre exemple, alors pas du, là on a sauté quelques siècles, de Matteo Ricci, qui est parti évangéliser en Chine, et qui considère que la société qu'il côtoie, donc la société chinoise de l'époque, a des hautes valeurs morales, qui sont beaucoup appuyées sur Confucius. Et pour lui, il remet à l'honneur quelque part Confucius comme base et comme préparation évangélique. Donc on est toujours dans ce thème-là, pour apporter le christianisme et pour s'appuyer sur quelque chose qui permet de dépasser. Voilà. En fait, on voit que cette loi naturelle et donc cette alliance entre la révélation et puis finalement ce qu'on a nous-mêmes au fond de nous, en fait, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, hein, qui était cette loi qui était inscrite dans les cœurs via la conscience, et qui fait qu'on a une perception innée du bien et du mal. Cette loi naturelle, en fait, elle est fondée sur la théologie de la création. C'est parce qu'on est à l'image de Dieu qu'on a en nous cette capacité de discerner le bien et le mal, voire de le faire quand on est dans un mode sauvé. Voilà. Et on voit bien d'ailleurs que sur le péché originel, c'est sur le discernement, enfin la connaissance du bien et du mal que s'est joué le péché. Donc il y a bien quelque chose qui est en lien avec ça. Et donc va restaurer le salut. Et donc c'est cette image de Dieu qui fait que on a une alliance avec le péché. C'est vrai qu'on a l'alliance entre d'un côté le Dieu qui nous touche et qui vient quelque part restaurer notre humanité par le salut, et puis en même temps c'est notre nature humaine qui est impuissante à bien discerner et à bien se réaliser, en fait, à faire le bien qu'on veut et ne pas faire le mal qu'on veut pas, comme dira saint Paul. Voilà. Donc la grâce du Christ, elle vient restaurer la nature par le pardon des péchés, et puis elle apporte la pleine participation à la nature même de Dieu. Donc quelque part, elle restaure cette loi qui est inscrite dans les cœurs et qu'on a parce qu'on est à l'image de Dieu. Voilà. Donc sans la création, en fait, l'histoire du salut et de la grâce du Christ, il est impossible de comprendre en théologie la nature, donc l'ordre naturel et la loi naturelle. Puisque la loi naturelle est travaillée par la nouveauté chrétienne dans la mesure où la béatitude promise par la grâce n'abolit pas le dynamisme de la vie naturelle et sociale. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas empilé, qui n'est pas parallèle, mais qui est intégré. Voilà. D'un côté, la loi naturelle qui est restaurée ou qui est dynamisée par la grâce. Et donc la loi naturelle est la loi originelle de l'humanité qui exprime l'image de Dieu qu'est l'homme. Alors elle est certes embrumée par le péché, mais elle est capable de renaître à la grâce par le salut du Christ. Pour saint Paul, la nature de l'homme, en fait, qu'il soit croyant ou païen, ne se comprend que dans le cadre de la révélation et de l'ordre de la création. Donc, pour le peuple de l'Ancienne Alliance, c'est la loi mosaïque révélée qui donne à l'homme une connaissance de l'ordre divin du monde. C'est le décalogue et le reste des préceptes. Pour les païens, c'est la conscience qui apporte, et ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois, qui apporte un témoignage intérieur puisqu'elle s'appuie, elle va chercher, puiser quelque part dans cette loi naturelle. Et puis, et quelque part, ce témoignage ou cette double façon de regarder les choses, en fait, c'est un peu comme l'Esprit Saint et la sagesse qui est révélée, qui vient nous irriguer de l'intérieur et nous permettre de retrouver la loi naturelle, quelque part. Alors, maintenant, on va travailler sur la loi naturelle et la révélation. Parce que là, je vous ai abordé des sujets sur la partie révélation, mais bon, y a un premier écueil. C'est de dire qu'il y a d'un côté la révélation qui s'impose à tous, et puis le reste, c'est des pratiques. Et les pratiques, elles sont éminemment relatives. Donc là, on est typiquement dans le courant actuel, là où tout est relatif, tout peut changer, etc. Donc voilà. Donc on a Karl Barth et Jacques Ellul qui ont déjà eu cette réaction confessante au moment de protestants. Pour eux, la morale humaine, elle est naturellement athée, puisqu'elle met l'homme au centre. Alors que la morale, elle devrait mettre Dieu au centre. Et pour eux, les catholiques ont trop cru à un impossible accord entre les vérités révélées et la réflexion sur la nature. Et donc, il vaudrait mieux accepter qu'un précepte n'est pas toujours justifié à nos yeux et entraîne l'obéissance du cœur. Typiquement, ils prennent l'exemple du sacrifice d'Abraham, du sacrifice de son fils, pour dire, voilà, si Dieu demande, on fait et c'est tout. On ne se pose pas la question de ce qui va. Donc, il faut recevoir cet absolu de la loi de Dieu. Et puis, dans la pratique, on compose et on accepte une sorte de morale humaine relative, susceptible d'évoluer, qui est purement pour mettre de l'ordre social. Voilà. Donc, on a vraiment comme deux paliers et deux choses qui vivent leur vie, mais qui ne sont pas du tout connectées. Alors, cette idée, elle vient aussi de l'idée qu'on peut bousculer la nature. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait une morale naturelle figée ? Donc, quand on regarde tout ce qui est existentialisme d'un côté et le transhumanisme de l'autre, on voit que l'idéal humain, il peut bouger. Voilà, il est conjoncturel. En fait, la notion de nature humaine est remise en cause. L'homme se fait autant et plus qu'il ne se reçoit. Et la liberté est vue comme dépassement des limites. Et donc, quelque part, bouger la nature, c'est faire preuve de liberté, en fait. Et du coup, dans ce cadre-là, ce qu'on dit, c'est que l'Église, elle est sur le statu quo. Elle imagine qu'il y a un état naturel qui est bien. Et puis, on en reste là. Et du coup, rien ne bouge, rien ne peut changer. Et puis, ça voudrait dire aussi que l'Église, en fait, elle se fonde sur la biologie qui serait la maîtresse du comportement et qui nous dicterait la morale. Alors qu'en fait, on voit bien que, par ailleurs, toute la médecine et tous les progrès autour de la chirurgie, médecine, enfin, tous ces trucs-là, en fait, on s'affranchit du donné biologique. Voilà. Donc, il y a cette réaction en disant, finalement, séparons les deux. Il y a d'un côté l'arbitraire de la loi de Dieu, et parce que c'est Dieu, il faut suivre. Et là, on est très... Ça, c'est la même chose si on était devant des musulmans, c'est là-dessus que ça va jusque-là. Et puis de l'autre côté, de dire, du coup, après le reste, on s'arrange et on fait au mieux de ce qui est bien, plutôt dans une catégorie d'organisation sociale, de la société. Alors en fait, ce qu'on répond, en tant que chrétien, et puis parce que c'est pas du tout le donné de la révélation, c'est que le projet de Dieu, il n'est pas arbitraire. Donc déjà, il n'y a pas de la loi de Dieu qui s'imposerait à nous, comme si Dieu était un despote qui chercherait à nous plier, à plier notre volonté et à nous demander des trucs absurdes pour voir si sa créature le suit. Voilà. C'est absolument pas ce que nous montre toute l'expérience biblique, tout le trajet et puis finalement notre vie de foi aussi d'ailleurs. Donc voilà, ce que Dieu communique, quand il communique sa volonté sur l'homme et quand il nous donne une loi ou des préceptes, sa volonté, elle est bonne et sage et elle correspond à un vrai bien. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'un côté ce que Dieu veut et de l'autre côté ce que voudrait notre nature profonde et ce pourquoi elle est faite. En fait, c'est la même chose. On est créature de Dieu et donc dans le dessein de Dieu, c'est la même chose qu'il veut et ce qui est bien pour nous. Voilà. Donc il n'y a pas de feuille à papier entre les deux. C'est la même chose, c'est les deux vues. Voilà. Alors par contre, ce qu'on expérimente, c'est que cette convergence et cette profonde identité entre ce que Dieu veut et ce qui est notre bien, on ne l'aperçoit pas toujours. Ça, c'est aussi l'expérience du péché. Et puis parce que on est aussi souvent paresseux ou ça ne nous arrange pas à ce moment-là. Et voilà. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas... Voilà. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on ne l'expérimente pas tout le temps qu'il n'y a pas cette profonde connivence et convergence entre les deux. Et on le voit bien quand on fait le bien ou quand on a réalisé quelque chose qui va dans le bon sens. Enfin, voilà. On voit bien qu'on est plus heureux, Donc, il y a quand même quelque chose qui a l'air de se matérialiser et qui a l'air de consonner là-dessus. Donc, Dieu a mis en nous un dispositif pour chercher le bien. Il nous est conformé. Et il n'est pas anéanti par le péché, même s'il est un peu bousculé par le péché. Et pas toujours, du coup, il a du mal à rester bien droit dans ses bottes. Voilà. Alors un autre point, c'est quand on regarde l'histoire du judaïsme, le judaïsme, il prône cet amour de l'observance, donc il portait un soin amoureux, il n'y a pas d'autre mot, aux moindres exigences du Dieu saint. Et il faut bien comprendre, alors ça nous paraît assez loin de notre culture, mais pour Israël, la puissance qui a créé l'univers trouve sa plus haute expression dans la loi et dans la fondation d'un ordre moral qui est participation à la sainteté de Dieu. Donc la loi exprime cette sainteté. Et donc, quand on se conforme à la loi, en fait, le juif, il apprend à connaître Dieu. Donc, il y a la loi, c'est une manière de mieux comprendre ce qu'est Dieu, sa volonté, et quelque part de mieux le connaître. Et du coup, de retrouver, de se laisser conduire par lui, comme par l'esprit, et puis de se réaliser, de restaurer quelque part l'image en lui du Créateur. Donc, pour un juif, observer la loi, c'est pas juste suivre des préceptes, mais c'est par amour de Dieu, voilà, vouloir le mieux le connaître, le connaître de l'intérieur en appliquant ce qu'il nous dit. Donc c'est comme ça qu'est vécue la loi. Ça nous paraît très loin parce que c'est pas du tout comme ça qu'on a un rapport à la pratique et donc c'est pas du tout dans cette logique-là qu'on est. Mais c'est vraiment la logique juive d'observance de la loi. Voilà, ça va. Donc l'autre idée là qu'on avait de dire bah finalement on peut bouger l'humanité, donc c'est relatif et donc des choses qui sont valables à un instant T peuvent changer dans un autre moment. En fait, ça voudrait dire que en fait, la nature n'est qu'une dimension matérielle. Voilà, notre biologie, notre corps, etc., n'est qu'une dimension matérielle qui peut bénéficier du progrès technique. Alors qu'en fait, ce qui est en jeu, c'est la dignité de l'homme. Donc en fait, on est sur la notion de personne. Et donc, quand on a des nouveaux enjeux éthiques qui apparaissent, droits de l'homme, égalité au sein du couple, etc., en fait, ce n'est pas une nouveauté intrinsèque, c'est seulement qu'on comprend mieux ce qui est dit. Si on regarde ce que dit Jésus, je ne crois pas qu'il ait dit quelque chose en disant qu'il fallait que l'homme soit plus important que la femme, ou qu'il n'a même pas prôné l'esclavage. Enfin, voilà, il n'y a pas du tout donc, il n'y a pas... Tout d'un coup, voilà, on a fait des progrès, et maintenant, dans ce qui était valable avant, bah, maintenant, c'est plus bien, et donc ça peut changer. En fait, il n'y a pas du tout ça. Il y a juste, à un moment donné, on cristallise et on comprend mieux quelque chose. Voilà, et on le redécouvre. Et donc, là, l'Église, la recherche, et quelque part, continue à dire des choses sur Dieu, sur l'Église, sur l'homme, et c'est ce qu'on fait, là, dans ces cours de théologie, d'ailleurs, aussi. Et donc, on peut continuer à réfléchir et c'est pas qu'on va découvrir des nouvelles choses ou qu'on va changer en se disant bah, finalement, avant ça c'était comme ça, mais maintenant c'est comme ça. Pas du tout, c'est l'idée, c'est de mieux comprendre. Donc, on est dans cette logique un peu de ce que je vous décrivais de l'observance juive, mais c'est voilà, il y a ce côté si on comprend mieux, si on creuse, si on fait preuve de. Si on met notre intelligence à raisonner, et ben on va mieux comprendre ce qui se passe et du coup, on va découvrir d'autres pans. Voilà. Et donc, il y a quelque chose autour de mieux articuler la nature et la personne. Donc, la nature, c'est les données initiales qui structurent notre humanité. Voilà, on est des êtres humains autour de la table, donc ça suppose un certain nombre de trucs. Voilà. Et puis, la personne qui, elle, finalement, et chacun de nous, d'entre nous, est unique dans cette catégorie-là, puisque chacun va jouer, en fait, avec la nature qui lui est donnée pour en faire une destinée unique. Voilà, une personne unique. Et avec le même... il y a qu'à avoir des frères et sœurs qui peuvent être très semblables en termes de données d'éducation machin ou d'origine, mais en fait ça donne des produits différents parce que c'est des personnes différentes qui vont en jouer différemment. Voilà. Et donc il n'y a pas quelque chose qui serait écrit d'avance, il y a ça se construit au fur et à mesure et donc c'est notre liberté qui construit la manière dont on va jouer notre partition et notre donnée. Et finalement la nature n'est pas juste le début, mais elle est tout ça, elle est aussi ce chemin et cette construction qu'on se donne. Et donc les débats aujourd'hui, comme s'il y avait une question de liberté face à une nature supposée invariable, en fait, c'est pas exactement ça. Parce que la nature, si c'est le donné de base, mais c'est aussi ce qu'on en fait et comment on le construit, comment on le vit et comment on le déploie. Et donc du coup, c'est à la fois un invariant et un variable. Voilà, on n'est pas parce que chacun va le faire différemment. Et donc il faut pas canoniser d'un côté le fait en disant donc ça c'est typiquement les témoins de Jéhovah, voilà, qui disent non. Moi j'ai mon sang et donc la transfusion sanguine c'est tout d'un coup c'est plus moi, je vais avoir le sang de quelqu'un d'autre, donc c'est pas possible, donc je refuse ça. Donc là il y a une sorte d'absolutisation du fait, de la nature du donné biologique, alors qu'en fait c'est pas exactement ça qui dit la personne. Voilà. Et en même temps c'est toujours, on est revertu de prudence, il faut rester entre les deux, c'est-à-dire qu'à la fois tout n'est pas interchangeable. Donc s'imaginer que par exemple on va nous greffer un autre cerveau, pas sûr que ça n'a pas quand même des impacts sur notre personne. Voilà. Reste un peu dubitatif. Donc, il y a quand même du jeu, peut-être. Voilà. Et en fait, la nature, au sens chrétien du terme, théologique, c'est vraiment l'idée... Ça inclut toujours une idée de finalité aussi. Donc, ce n'est pas juste le donné de base d'origine. Ce n'est pas les faits et l'avoir du départ. Mais c'est cette idée de finalité et de vers quoi on va. Et donc, c'est quelque part, finalement, c'est notre vocation. C'est le dessein de Dieu. C'est... Voilà. C'est vers quoi on va. Alors, un deuxième écueil entre raison et révélation, c'est de dire, bah, en fait, on peut tout faire par la raison. Donc, on va y arriver. Et puis, à la fin, si ça tombe sur ce qu'il y a dans la révélation, bah, ça veut dire que c'est bon, quoi. Mais c'est la raison qui doit tout faire. Voilà. Donc ça, on voit bien l'expérience. Bon, je ne vous commande pas ça pendant 20 ans parce que vous voyez bien le sujet. En fait, on voit bien que la loi naturelle, elle n'est pas exactement posée comme ça dans les réflexions des hommes. Donc, et probablement que les réflexions anthropologiques ou de morale, bah, c'est surtout dans l'Église qu'on les a. Et on voit bien qu'on a besoin de la révélation pour poser les choses correctement. Voilà. Parce que le péché a obscurci notre conscience et a un peu attaqué notre intelligence aussi. Voilà. Donc on a du mal à aller jusqu'au bout. Donc on peut s'appuyer sur la morale laïque, on peut retrouver déjà plein de choses. Et c'est vrai que comme nous, en plus, on est issus quand même d'un milieu chrétien. Enfin, je veux dire, la France, elle a été chrétienne pendant très très longtemps, même si elle est beaucoup maintenant. Du coup, il y a plein de trucs, on a l'impression que c'est juste la morale naturelle, puisque là, effectivement, à l'heure actuelle, c'est moins chrétien, mais en fait, nos lois, il y a plein de choses dans notre société qui sont complètement énervées par le fait qu'il y a eu tant d'années de christianisme et d'imprégnation de l'Église, en fait. Et donc, du coup, on voit bien qu'au bout d'un moment, ça se désynchronise. Voilà. Donc, en fait, il y a quand même des choses. C'est pas évident. Et c'est intéressant, la réflexion sur le mensonge, par exemple. À l'heure actuelle, enfin, juste comme ça, le mensonge n'est pas du tout forcément vu comme quelque chose de négatif. Pour les chrétiens, c'est vraiment le mensonge est intrinsèquement pervers. Ça fait référence aussi à la Genèse, hein, le serpent qui a trompé. C'est le début du péché originel, c'est le mensonge. Et donc, il y a quelque chose qui est intrinsèquement pervers du mensonge. Alors que c'est vrai que la société actuelle, bon, elle dit, bon, si c'est pour le bien de l'autre, il vaut mieux raconter des bêtises. Voilà. C'est fondamentalement pas vrai. Voilà. Et donc, il y a quelque chose, on voit bien que c'est pas si évident de se dire, on peut juste se baser sur ce qu'on peut trouver par notre propre raison et d'avancer comme ça. Voilà. Et donc, on va retrouver ça aussi sur des choses autour de la morale sexuelle. Mais je trouve que celle du mensonge, elle est encore plus criante parce que je pense qu'elle est beaucoup plus diffuse et beaucoup plus compliquée pour défendre la vérité, quoi. Et donc, il faut prendre acte de l'assomption de la sagesse des nations par la pensée biblique. En fait, il y a une valeur dans la réflexion humaine, mais si elle a l'humilité de savoir ses limites et de vouloir se laisser éclairer par la révélation. Et donc, on ne doit jamais opposer la foi et la raison. La vitesse et ratio, Jean-Paul II. La foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Voilà. Et c'est les deux ensemble, en fait. L'une éclairant l'autre et l'une s'appuyant sur l'autre. Voilà. Donc la connaissance que les hommes ont de leur bien est partielle et souvent erronée, les avis divergent, on peut se tromper. Aristote pensait que l'esclavage était une nécessité, la polygamie aussi reste un sujet pas si évident que ça, il semble très naturel. Bon, c'est typiquement, probablement plus masculin que femme, on ne dira pas la même chose, mais bon, je n'en sais rien, je ne vais pas commenter. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que Dieu, il a intervenu, il continue, et tout au long de la Bible, ben, voilà, il continue à éclairer, et même à l'heure actuelle, ben, on continue à éclairer. Il y a des problèmes qui se posent actuellement, qui ne se posaient pas peut-être il y a 2000 ans. Et donc, on a toujours à... Voilà, c'est pas qu'il y a il y a une autre réalité, et du coup, on doit se reposer des questions, et donc, on a vraiment laissé la révélation illuminer la raison. Alors, si on revient à Jésus... En fait, ce qu'il a introduit, et ce qui est une vraie nouveauté, c'est qu'il a introduit une certaine hiérarchie dans les préceptes, commandements, lois, etc. En fait, quand il dit « je ne suis pas venu abolir la loi, mais plutôt l'accomplir », on peut l'entendre en plusieurs sens. Il peut d'un côté dire « c'est je le porte à la perfection, donc je vais jusqu'au bout de ce que la loi et les préceptes proposaient, et je vais à la dernière perfection, mais aussi je l'achève dans ma vie, donc je porte en moi et c'est moi qui le réalise complètement dans ma vie et ma mort. Et donc quand il demande d'honorer, il demande de respecter jusqu'au plus petit commandement, il n'y a pas un iota de la loi qui sera perdu, mais en fait, c'est pas pour ça qu'il dit que tout est... Alors la loi positive, hein, je vous en ai pas parlé. La loi positive, c'est les préceptes plus liés rituels, etc. La loi naturelle, on va être plus sur la morale, le décalogue, les préceptes morale, les vertus, les choses comme ça. Et puis la loi positive, on est plutôt sur les préceptes rituels, toutes les choses qui sont liées, donc le Lévitique en entier par exemple, presque. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la loi positive, qui sont juste des préceptes, voilà, qui ne sont pas forcément liés à notre nature. Donc elle n'est pas disqualifiée, mais n'a pas le même poids, la même importance. Et donc, par rapport à une situation où la Torah ne faisait pas vraiment la distinction entre les 613 prescriptions pour les Juifs, lui, Jésus, il met une hiérarchie et donc il met une vraie logique, voilà, qui est claire et qui est assez révolutionnaire, en fait. Donc, déjà, il met en perspective les commandements au lieu de les mettre sur le même plan. Donc, certains s'imposent absolument, tandis que d'autres ne sont que des signes utiles, mais parfois susceptibles d'exception. C'est tous les sujets autour du sabbat. Voilà. Donc le sabbat n'est pas un absolu en tant que tel, puisque le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et donc, si je dois sauver la vie de quelqu'un, et si pour ça je dois aller porter ou je dois aller marcher plein de lignes, eh ben, il faut que je le fasse. Voilà. Ou la pureté rituelle, l'histoire du bon samaritain, c'est ça. Les Lévitiques, il s'est pas arrêté parce qu'il aurait été impur et il n'aurait pas pu aller au temple. Donc voilà, donc les règles de pureté sont pas toujours ça. Il y a aussi donc c'est tous les commentaires dans Marc. Oui, il dit, voilà, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Et il est assez virulent quand il dit ça, en leur disant que c'est n'importe quoi ce qu'ils font. Voilà, qu'ils ne sont pas des bons juifs. Ensuite, il rééquilibre la préoccupation qui est souvent tournée vers les règles les plus extérieures afin de mettre en valeur l'attitude intérieure, qui est vraiment le plus important. Donc voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Et notamment, enfin, moi j'aime beaucoup celle de Matthieu 5, 24. Si tu te souviens, là devant l'autel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Donc ce n'est pas la place de l'offrande, hein, on est d'accord, après on vient la présenter. Mais par contre, on commence par traiter le sujet intérieur et le sujet de relation. Aussi, il voit dans certains commandements une concession temporaire à la dureté du cœur, alors que Dieu avait à l'origine d'autres intentions. Donc là, on a toutes les choses sur la loi du Sultalion, voilà, où il dit maintenant, qui était déjà un progrès, hein, c'est mieux de rendre la proportion de ce qu'on nous a fait. Mais lui, il dit même tendre l'autre joue, voilà. Et puis sur le divorce, où il dit voilà, c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc il met aussi de façon contingente à un instant T, parce que c'est compliqué, on peut avoir des choses qui sont acceptables, mais voilà, on ne remet pas en cause et ce n'est pas forcément valable. Donc il y a toute cette gradualité, on va dire, dans la façon dont il voit les commandements. Et puis après, bon, il y a toute la partie où il révoque un certain nombre de pseudo-commandements. Voilà, il y a aussi, il faut clarifier ce qui est juste des pratiques qui sont imposées par un cercle de rabbins, une tradition des hommes, mais qui n'ont finalement aucune valeur en tant que telle. Donc, il faut aussi discerner ce qu'on demande. Voilà. Et puis, ce qu'il met fondamentalement, c'est qu'il met au centre et en haut, ou au centre, c'est très bien, le commandement de l'amour. Voici le premier commandement, le plus grand. Et tout le reste est ordonné à celui-là. Saint Paul, il va faire exactement la même chose, c'est dans la même lignée, quand il va voir les chrétiens d'origine païenne. Et il va leur dire de se faire circonscrire si c'est possible pour ne pas choquer, etc. Mais il leur impose pas ça. Par contre, le décalogue, là, c'est non négociable, c'est pour tout le monde. Voilà. Donc il est aussi dans cette même ordonnancement des différents commandements. Alors du coup, on peut voir la révélation et l'articulation raison et révélation. Saint Thomas d'Aquin qui est toujours très bon pour ce genre de choses. Donc on peut concevoir la révélation comme une suppléance. C'est-à-dire que la raison, elle peut s'élever à la connaissance de la loi naturelle. Mais comme elle est obscurcie par le péché, ben, la révélation lui apporte une suppléance, c'est-à-dire l'aide à aller un cran plus loin et aller dans le bon sens. Soit on peut dire aussi que la révélation, c'est un discriminant, parce qu'elle permet de tamiser quelque part dans les doctrines humaines celles qui sont vraiment en lien avec les intentions divines et donc qui consonnent avec notre être à l'image de Dieu et la volonté de Dieu. Et puis celles qui sont qui s'en éloignent ou qui sont anecdotiques et qui sont sans lien. Voilà. Et donc, quelque part, c'est l'épreuve de la croix la sagesse de la croix qui peut rendre compte de la folie du commandement divin qui nous demande de donner notre vie pour nos frères et de vivre dans une chasteté parfois héroïque, etc. Et donc, c'est parce qu'il y a cette sagesse de la croix qu'on peut, qu'on va pousser quelque part les doctrines humaines jusqu'au plus loin. Pardon. Alors, loi naturelle et mission. Alors, la première chose que je voulais mentionner, c'était sur l'universalisme. Parce qu'on pourrait se dire, bah, en fait, cette loi, elle est valable pour les chrétiens, quoi. Donc, qu'est-ce qui nous embête à toujours nous dire que c'est là pour tout le monde et que le pape intervient sur plein de sujets et que l'Église dit, intervient aussi sur plein de sujets ? Ça veut dire quoi ? Ils n'ont qu'à se préoccuper de leurs affaires et rester entre eux. Voilà. Et bien, ce n'est pas du tout ce que nous dit le Christ. Et c'est valable pour tout le monde. Voilà. Donc, il dit, Deutéronome, alors c'est pas le Christ, c'est Deutéronome, là, donc on est dans l'Ancien Testament. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique, ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation ». Donc déjà, dans le peuple juif, on avait déjà cette idée que cette sagesse, bah, finalement, elle était valable pour tout le monde et qu'elle pouvait être reconnue par les autres. On a aussi la reine de Saba qui va avoir, il y a plus que la, voilà, qui va avoir la sagesse de Salomon. Voilà. Et donc, elle est valable aussi pour elle. Et les papes du XXe siècle, notamment Jean-Paul II, mais aussi Benoît XVI, etc., ils reprennent par exemple les problématiques des droits de l'homme et de la dignité de la personne humaine en affirmant l'existence d'un projet de Dieu sur l'homme qui concerne du coup tous les membres de l'espèce humaine et non pas les animaux. Donc vraiment cette idée de l'être humain, la nature humaine ou la personne humaine. Et donc des choses autour du refus du racisme, d'un certain culturalisme qui relativiserait toute éthique commune. Et donc, ils défendent la loi naturelle comme une dignité universelle de l'homme qui en fait son humanité. Et donc, défendre l'universalité, l'universalisme de la loi naturelle et du coup de la morale chrétienne, bah, en fait, c'est parce que ça s'adresse à la dignité de l'homme. Et donc, non, elle n'est pas valable que pour certains. Après, on peut le reconnaître ou pas. Mais en tout cas, elle est valable pour tout le monde parce qu'elle est le bien, finalement, de l'homme. Voilà. Donc ça, c'est le premier sujet, et c'est pour ça qu'on a dit aussi l'Église, elle est experte en humanité, parce qu'il y a quelque chose de, voilà, qui est valable pour toute l'humanité. C'est une phrase de Paul VI à l'ONU, là, c'est ça ? Chercher entre Paul VI et le voisin, non, je ne sais pas pourquoi j'ai été embrouillée. Voilà. Et donc, il est capital de montrer que la morale chrétienne, même si elle tire son inspiration de la Bible et des documents du magistère, donc de l'Église, n'est pas la morale d'un groupe particulier, mais qu'elle affirme du bien et du mal, vaut en principe pour tout homme, qu'il le sache ou non. Voilà. Et donc, chaque fois que les papes ou les évêques interviennent ou demandent une législation conforme à la loi naturelle, procréation assistée, mais on a maintenant les histoires d'euthanasie, le mariage, etc., ben c'est pas juste une volonté de dire « c'est nous qui avons raison et on empiète sur le laïc », c'est vraiment parce que, fondamentalement, cette morale, elle est valable pour tout le monde et que c'est voilà, elle consonne avec la dignité de chaque homme. Et donc, la loi naturelle, elle est de droit. Finalement, elle devrait être dans tous les droits. Enfin, dans tous les droits, dans toutes les législations. Alors, le deuxième sujet, c'était pourquoi est-ce qu'il y a cette loi naturelle ? On a parlé tout à l'heure en lien avec la création, mais là, je voudrais parler en lien avec le logos divin. Donc, c'est en fait aussi cette raison qui nous fait redécouvrir la loi naturelle, mais qui nous permet aussi d'accueillir la révélation. Ben, en fait, elle est en lien avec le verbe, enfin, voilà, qui est la raison divine. Donc, saint Thomas décrit l'homme comme une créature spirituelle, ouverte sur une fin qui dépasse et transcende ses possibilités. Par la médiation, donc la naturelle, c'est comme une médiation pour avoir les instruments de bonheur. Par la médiation de la loi naturelle, saint Thomas introduit dans la nature humaine elle-même l'empreinte de Dieu, de la raison et de la grâce. Et il met les deux en même temps, c'est-à-dire la raison et la grâce. Donc quelque part l'Esprit Saint, la révélation, et puis la raison où on peut trouver les choses par nous-mêmes. Voilà. La raison humaine n'est plus envisagée comme une simple pragmatique empirique, donc une chose qu'on pourrait découvrir et avancer, mais comme la manifestation dans l'homme de la nature divine. Image de Dieu, participant de la nature divine, l'homme peut par sa raison droite accomplir la volonté de Dieu. Et alors, le droit qui régit les rapports entre humains et la bonne nature de l'homme est alors pensé théologiquement comme l'expression de la présence de la grâce en l'homme. Bon, là, je me répète. Alors, attendez, c'est toujours pareil avec ces... Je répète des phrases, mais voilà. Cette idée que la grâce est en nous et cette alliance, en fait, cette raison divine qui nous irrigue, eh ben, en fait, elle vient nous rencontrer dans notre nature humaine qui est à la fois, du coup, finitude et infinité. Puisque finalement notre nature humaine, elle est finie, elle est dans un environnement fini, démarre à temps et puis en plus il y a la mort, mais même la vie éternelle. Et puis cette vie, j'ai perdu ma phrase, zut. Voilà, capable de Dieu, donc il peut aller jusqu'à l'infini en fait. Voilà, et donc la participation de l'homme à la loi naturelle par sa raison est ainsi l'expression de l'activité universelle de la sagesse de Dieu, en laquelle toutes choses sont créées et gouvernées. Donc quand on fait réfléchir notre raison et essayer de trouver la loi naturelle par nous-mêmes, en fait, on actionne ce que Dieu nous a mis en nous par sa sagesse providente. Voilà. Mais l'enjeu, c'est pas de séparer le registre de la raison, de la volonté, du désir d'une part, et puis ce qu'on est dans le cosmos, etc. Mais c'est vraiment de relier les deux. Donc là, on est toujours comme dans la Genèse. Je crois que toute l'année, on aura parlé de la Genèse à tous les cours. C'est de cette alliance, voilà, il faut retrouver l'unité, en fait, entre la raison et notre esprit et puis notre corps, et entre notre nature de créature et le fait qu'on est à l'image de Dieu et donc qu'on est une nature spirituelle. Voilà. Et donc, le concept de loi naturelle, en fait, on pourrait se penser que c'est juste un petit garde-fou, machin. En fait, c'est quand même plus puissant que ça. C'est vraiment qui suppose la grandeur d'une raison humaine capable de discerner en remontant à la raison créatrice de Dieu qui est à l'origine de tout. Voilà. Et donc, notre garant que notre raison, elle fonctionne bien, c'est quand on la remet dans les mains de Dieu, en fait. Et c'est ça qui fait qu'on a l'alliance entre la raison et la révélation. C'est parce qu'on en remonte jusqu'à au logos divin. Alors, faire droit à la raison pour discuter avec des non-chrétiens. Donc, sur le terrain de la raison, on est dans une confrontation positive. Et donc, on peut expliquer ce qu'on a reçu de la révélation. On peut discuter, on peut argumenter. C'est ce qu'on fait, nous, tous, dans l'évangélisation. Voilà. Et là, on a un vrai sujet entre la révélation qui dialogue avec la raison. Et le fait qu'on ait confiance dans cette raison humaine, qui, nous, est éclairée par la révélation et par notre foi, mais qui, même dans l'autre, a une valeur et à l'image de Dieu, et bien, en fait, cette confiance fait qu'on peut dialoguer avec des non-chrétiens et finalement rejoindre une aspiration qui est cachée chez lui, puisqu'il a quelque chose de ce souhait de trouver le bien. Voilà. Et qu'il a en lui aussi la loi naturelle qu'il peut deviner, enfin, qu'il peut retrouver. Voilà. Et donc on n'est pas toujours... Enfin, c'est toujours pareil, on peut argumenter, etc. Mais au bout d'un moment, il y a quelque chose où il faut laisser la révélation jouer. Et donc, on ne peut pas non plus juste faire une sorte de débat et d'échange. Voilà. À un moment donné, il faut aussi qu'il y ait une ouverture vers la révélation et vers quelque chose de plus. Mais la raison peut conduire à ça et permettre cette ouverture, en fait. Parce qu'elle sera consonante. Et si on commence à vouloir que quelqu'un accepte la révélation sans que sa raison soit honorée, ou en tout cas qu'il puisse comprendre, ou essayer de discuter, ou essayer en tout cas d'avoir une certaine adhésion de sa raison, ben, en fait, ça ira pas bien loin et ça va forcément tomber. Parce qu'il faut que ça fait partie de son être, et donc il faut que sa raison soit aussi satisfaite d'une certaine façon. Voilà, et donc on est comme Pascal, qui est l'homme passe l'homme, et donc il y a quelque part à un moment donné quand même un saut qualitatif. Voilà, donc c'est pas juste par la raison qu'on va réussir, de la même façon que par la raison on peut trouver beaucoup de choses dans le naturel, mais en fait pour vraiment remonter jusqu'au logos, il nous faut la révélation. Donc Jean-Paul II insistait beaucoup sur la loi naturelle comme porte d'entrée de la morale chrétienne, et l'exposé des principes chrétiens, notamment sur l'amour et le mariage principalement, son nature a touché les cœurs droits et sincères, même éloignés de la foi chrétienne. Et donc, il y a quelque chose de très juste là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut faire fond là-dessus pour avancer et pour emmener vers Dieu. Mais bon, on ne pourra pas juste moraliser, il faudra évangéliser et donc parler du Christ. Voilà. Il y a aussi que la, avec les non-chrétiens, en fait, le dialogue, ce qui est intéressant, c'est aussi que au-delà de la loi naturelle ou ce qu'on a dans la révélation, bah, en fait, on peut prolonger avec, voilà, travailler sur des terrains nouveaux. Donc, on a la guerre atomique, par exemple, les manipulations génétiques, qui ne sont pas des sujets il y a 2000 ans abordés, on va dire. Et ben voilà, typiquement, le fait qu'on puisse s'appuyer sur la raison et sur cette loi naturelle, et ben ça veut dire qu'on peut aussi travailler des sujets comme ça, qui sont nouveaux. Et ça, c'est un vrai terrain à travailler avec les non-chrétiens. Voilà, donc là, on n'est pas dans quelque chose où tout nous est donné, il y a juste à appliquer. Non, ben là, typiquement, forcément, sur ce genre de domaine, on va être, il va bien falloir travailler avec la raison. Voilà, et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut invoquer quand on parle avec des non-chrétiens, de voilà, que tout n'est pas donné et qu'il y a du travail à faire. Et donc l'Église peut entrer dans le débat moral et invoquer la loi naturelle sans en faire une question religieuse au sens rituel du terme. Là se trouve précisément le terrain du dialogue prudentiel de l'intelligence à entretenir avec tous les hommes. Et donc la loi naturelle permet aux chrétiens de poser que ce qu'ils affirment dans leur foi à propos de la vérité de l'humain est susceptible d'être débattu et soutenu en raison. Et la conséquence, c'est que, de la même façon, ce que les non-croyants nous proposent comme affirmation doivent être aussi débattus en raison. Et c'est une des choses qu'on dit en apostolat, c'est quand en face de vous, avez quelqu'un qui ne veut pas faire appel à la raison, le trahir, ben, du coup, ça va être quand même compliqué de discuter. Et donc, non, on n'est pas malhonnête quand on fait de l'évangélisation, si on a cette correcte articulation entre à la fois faire droit à la raison et voir tout ce qu'on peut travailler ensemble par la discussion et en s'appuyant sur la loi naturelle, et en même temps accepter que voilà, il y a la révélation qui à un moment donné va démultiplier les choses. Voilà. Donc on n'a pas d'un côté la morale naturelle et de l'autre une morale chrétienne. En fait, c'est une, parce qu'il y a un dessein de Dieu et que finalement on est sur la volonté de Dieu. Donc c'est la même, on est sur le même produit qui nous a fait à la fois chrétiens et à la fois baptisés. Dieu nous a créés intelligents et donc nous devons mettre notre raison au service de la révélation, mais elle doit rester humble et se laisser illuminer par la révélation. Étudier la morale chrétienne n'est donc pas se contenter de réfléchir au bien fondé humain rationnel et raisonnable des exigences de comportement, c'est ajuster ses réflexions indispensables avec la source de notre vocation d'enfant de Dieu. Et donc c'est allier correctement la foi et la raison, comme nous le demande Jean-Paul II.